Il est 10h03, je suis tellement contente, les circuits téléphoniques sont pleins, on va avoir plein d'histoires à entendre. Mon invitée Sylvie Ouellette, elle est auteure, entre autres, du livre « J'aimerais tant te parler » qu'on va vous offrir aujourd'hui parmi ceux et celles qui vont nous téléphoner. L'ABC de la communication entre ciel et terre. Alors, si vous lisez entre les lignes, il y a beaucoup d'ésotérisme là-dedans. Et aujourd'hui, on vous pose la question, je vais le dire comme ça, avez-vous déjà été témoin d'une intervention divine? Il y en a qui appellent ça des anges gardiens, que c'est leur parent décédé qui est là pour les aider, hasard de la vie, coïncidence, tu sais, on va tout mettre ça dans le même paquet aujourd'hui. Puis donc, on va vous entendre. Mais juste avant, tu sais, on parle d'accident, etc. Moi, je te l'avais raconté encore, Sylvie. Pauvre toi, tu connais toutes mes histoires. Mais c'est parce que c'est des histoires marquantes. Ouais. Puis c'est pour ça que je vous le raconte rapidement avant d'aller parler avec Lise. Le premier voyage que je fais vraiment de ma vie, je le fais seule, cadeau, je pars pour le Pérou, 3 semaines de temps, puis vraiment, voyage sac à dos, là, tu sais pas ce que tu couches le lendemain. Moi, j'avais réservé une place première nuit dans une auberge de jeunesse à Lima, puis ça donne, avec les vols disponibles au prix que je cherchais, que j'arrivais en pleine nuit.
Okay.
Et l'aéroport jusqu'au centre-ville, en tout cas, c'était quand même assez long, puis tu rentres vraiment dans un endroit qui était pas sécuritaire à l'époque, je sais pas maintenant aujourd'hui, mais genre que 2 semaines avant, ta mère, elle écoute un reportage à la télé, puis elle voit qu'il y a les piranhas qui appellent. Eux autres, c'est des gens de bandits. En 2 minutes, t'es tout nu, puis ils ont tout pris ce que t'avais sur toi, ton sac à dos, ton portefeuille, etc. Fait qu'on part un petit peu, je pars un petit peu stressée, mais c'était juste mon arrivée qui me stressait parce que c'était de nuit, sinon j'étais en totale naïveté, on va le dire comme ça. Et finalement, j'arrive dans l'avion, et le premier, je me rendais jusqu'à Chicago, puis après ça, c'était Chicago Lima, mais dans le premier avion, je fais mes affaires. Après ça, j'arrive à l'aéroport, prends un verre à quelque part, pas un verre, mais je dîne à quelque part dans un restaurant. Là, je t'entends parler québécois, salut, tu t'en vas où? On s'en va à Lima. C'était du monde qui était de Drummondville, des hommes d'affaires qui, eux autres, s'en allaient justement faire des affaires à Lima dans le domaine du textile. Fait que là, ils me disent, tu vas là tout seul? Tu sais, j'étais jeune. Fait que je dis, ben oui, t'as pas peur? Ben non, c'est juste mon arrivée qui me fait peur. Ben, on a un chauffeur, nous autres, qui vient nous accueillir à l'aéroport. On pourra aller te reconduire à ton hôtel.
Wow! Ouais.
Tu sais, c'est-tu un hasard? C'est-tu intervention divine? Le seul petit stress que j'avais, il était réglé de main.
Oui.
Tu sais, c'est...
Puis en même temps, peut-être que si tu avais vraiment stressé beaucoup, tu aurais été tellement dans ta bulle que tu n'aurais pas pu avoir cette conversation-là.
Peut-être.
Puis tu aurais passé à côté de cette offre-là extraordinaire où tu étais protégée, puis garde, on t'a amené.
Oui, oui, oui. En tout cas, ça m'avait vraiment marqué. On va aller au téléphone. On va vous parler maintenant. On va parler avec Lise. Bonjour, Lise.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
C'est José.
Ah, oui.
Mais c'est pas grave.
Ah, c'est José.
Bon, moi, c'est arrivé en l'an 2000.
Okay.
J'étais au volant de ma voiture, puis j'ai fait un capotage sur l'autoroute de la capitale.
Okay.
Mais au moment où j'ai senti la voiture, tu sais, comme basculer, si on veut, j'ai senti une main sur mon épaule droite, puis la voix de mon père qui était décédé là depuis 5 ans. Puis la voix de mon père qui m'a dit, tu vas sortir. Juste ça. J'ai fait des tonneaux, j'ai fait, je sais pas, 3-4 tonneaux. Je suis sortie de l'auto, je marchais comme si rien n'était, j'avais aucune blessure, même pas raquée quelques jours plus tard.
Ah, ben ouais.
Puis c'était vraiment la voix de mon père.
Ouais.
Puis il a juste dit ça, il a dit, tu vas sortir. Fait que je me suis vue comme dans un manège, finalement, j'ai pas eu peur.
Ça vous a enlevé votre...
Complètement. Ouais. Tu sais, sinon, tu sais, quand on se voit partir, j'imagine que la peur nous prend.
Ben oui.
Mais là, pas en tout. J'étais attachée, j'ai tourné, je suis retombée sur les roues de l'auto, puis j'ai débarqué de l'auto comme si rien n'était, puis j'ai même pas eu peur de conduire après.
Moi, ça, c'est une autre histoire.
Écoute, l'auto, c'est la perte totale, c'était quand même un bon accident, là. Comme si rien n'était.
J'ai une question pour vous, Lise.
Oui.
Cette expérience-là, est-ce qu'elle a changé quelque chose dans votre peur? Tu sais, on a souvent des peurs au quotidien, mais est-ce que ça a eu un impact après pour dire « j'ai pas besoin d'avoir peur parce que je suis protégée
» Non, c'est drôle, non.
Ah, OK.
Non, ça m'a pas effleuré l'esprit, non.
OK.
Non.
Faut pas prendre ça pour acquis, tout d'un coup, qui est occupé cette journée-là.
Non, mais en même temps, je pense que, je veux dire, on est tous protégés.
Oui.
Puis, ce genre de manifestation-là ne nous arrive pas non plus par hasard. Il nous arrive pour nous montrer qu'on est protégé.
OK, tu penses que
c'est clair.
C'est un signe qu'ils veulent nous démontrer. Là.
Oui, puis je pense que ça peut avoir un élément transformateur, justement, sans être devenir téméraire puis faire n'importe quelle connerie après.
Oui.
Mais juste pour nous dire, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir peur dans cette situation-là ou je fais plutôt confiance, un peu comme toi dans ton expérience à Lima, tu sais, de dire, OK, jusqu'où je vais dans ma peur ou puis jusqu'où je fais confiance.
Oui, oui.
Mais je disais non tantôt, c'est vrai. Mais non, c'est vrai que, tu sais, quand j'ai des voyages à faire en auto ou quand j'ai fait des plus longs déplacements, c'est drôle parce que quand je reviens à la maison, souvent je vais dire, bon, ben merci à mes anges gardiens.
Mmh, oui.
C'est vrai?
Oui.
Tu vois, comme la mère de mon conjoint aussi est décédée, des fois quand ton père dit, bon, ben on est bien, ta mère, mon père, on est tout là.
Ouais. Ah, ben, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Oui. Merci beaucoup, Josée, de votre appel. Au revoir.
Au revoir.
On va parler avec Hélène maintenant, qui nous a joint au 670-9330. Ce ne sera pas long. Bonjour, Hélène.
Un peu, je vais fermer la radio.
Oui, parfait.
OK, bonjour.
Bonjour. Hélène.
Moi, j'en ai tout une à vous raconter.
OK.
Bon, je vais mettre ma patente à off, là. Je suis en train de ménage en vous attendant. OK. Bon. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que étant plus jeune, en secondaire 4, j'ai eu un gros accident de voiture et puis j'ai été 45 minutes inconsciente et j'ai vu mes deux sœurs et ma mère qui étaient à mon chevet.
Ah oui.
Et ensuite, j'ai vu la lumière aussi.
Mm-hmm.
Puis après ça, ben là, j'ai vu que ma mère avait beaucoup de chagrin. Et puis, j'ai réintégré mon corps. Et puis, en réintégrant mon corps, j'ai vomi tout ce que c'est que j'avais mangé.
Bon,
ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai toujours eu comme une porte ouverte vers ces choses-là.
Mm-hmm.
Entre autres, mon grand-père, qui est mon parrain, lorsqu'il est décédé, c'est moi qui l'ai vu la dernière, quand il était sur le bord de mourir, je l'ai veillé la nuit avant qu'il décède,
mm-hmm.
avec ma sœur. Moi, ce que j'ai vécu là, c'est extraordinaire. Mm-hmm. Mon grand-père, parce qu'avant de mourir, je ne savais pas ça, mais avant de mourir, on quitte notre corps, on va voir
mm-hmm.
la lumière et on revient dans notre corps parce qu'on a peur.
Mm-hmm.
Là, on vérifie. Puis moi, je ressentais tout ça, là. Je le sentais qu'il sortait de son corps puis qu'il revenait. Là, je dis à ma soeur, il revient, là. Demandez-moi pas qu'est-ce que j'ai vécu là, je le sais pas.
Ouais.
Tu es comme hyper connecté, là.
Je vais vous encourager. Si vous voulez comprendre, allez chercher un livre du docteur Raymond Moody, qui est un psychiatre américain qui a écrit « La vie après la vie », mais allez chercher...
Raymond Moody,
oui.
Attends un peu, je vais écrire ça, là, parce que...
Et le titre du livre, attendez-moi un petit peu.
Puis lui, il s'est vraiment attardé à ça.
C'est un psychiatre qui a étudié, il appelle ça des expériences de mort partagées. C'est un livre tout à fait fascinant parce que c'est justement ça qu'il raconte comment on peut partager, on peut vivre en connexion la mort de quelqu'un puis l'accompagner. Oui, c'est vraiment fabuleux.
En passant, je regarde ce qu'il a écrit, puis entre autres, sauvé par les anges.
Oui.
Il a écrit ça.
Ouais. Mais tout à fait. Le titre du livre, excusez-moi, je vais juste vous donner le titre du livre, ça s'appelle Témoin de l'après-vie.
Témoin de l'après-vie.
Oui.
Attends un peu, là, je suis sortie du bureau, la laveuse dedans.
Témoin de l'après-vie.
De l'après-vie.
Oui.
C'est quoi votre autre chose que vous avez vécue?
L'autre chose, ben j'en ai trois. La deuxième, ça, c'est comme la deuxième, celle-là.
Mm-hmm.
La troisième, c'est ma mère, juste avant de décéder, justement, une journée ou deux avant de décéder, j'étais à son chevet. Et puis là, moi, je suis croyante. Alors, j'ai dit à ma mère, j'ai dit... là, on va prier, là, OK?
Mm.
Puis là, j'ai fait venir le prêtre après ça pour l'extrême-onction, puis tout ça. Puis pendant qu'on priait, elle avait une demi-sœur qui était religieuse, puis c'est elle qui a pris soin d'elle quand elle était petite, parce que ma grand-mère, sa mère, ne pouvait pas prendre soin d'elle parce qu'elle manquait d'argent.
OK. Mm-hmm.
Alors, elle a été mise au couvent où était sa demi-sœur qui était beaucoup plus vieille qu'elle.
OK.
OK. Alors, là, elle m'appelait par le nom de sa demi-sœur, parce qu'elle était religieuse.
Ah oui.
Parce que je priais avec elle. Là, je capotais parce qu'elle était à la morphine.
Oui.
Puis ma dernière, c'est mon grand-père, qui est mon parrain, quand je l'ai vu décéder. Il a toujours resté près de moi. Quand il est décédé, ben ça serait comme une troisième, puis après ça, c'est une quatrième. OK. Une autre chose. C'est que quand il est décédé, un mois après, pendant le mois où les... Je pourrais dire même les 6 mois après qu'il a décédé, c'est sûr que je dormais en face d'un miroir, c'est plus facile la réflexion dans ce temps-là. Il venait à tous les soirs au pied de mon lit me réconforter parce que dans mon union, dans mon mariage, ça allait pas bien. Fait qu'il venait comme me réconforter. Bon. Après ça, j'ai rencontré mon conjoint actuel. 3 mois après, j'étais enceinte. Alors, puis ça fait 27 ans, là, qu'on est ensemble. 28 ans qu'on est ensemble.
Okay.
Alors, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire, tu sais, parce qu'après 3 mois, là, t'as beau dire que tu l'aimes, là, quand t'as 30 ans, tu sais que la vie, qu'est-ce que c'est, hein? Fait que là, finalement, quand j'ai eu pris ma décision, régulièrement, mon grand-père, quand j'avais des questions, des questionnements ou que j'avais des incertitudes, je le sentais près de moi. Je sais pas comment expliquer ça, je sentais qu'il était là.
Oui.
Mais après avoir pris cette décision-là, il est venu me réconforter d'une chaleur, en fait, il m'a enveloppé d'une chaleur et après ça, je n'ai plus jamais revu mon grand-père.
Ah, c'est comme s'il avait dit, OK, vous êtes en bonne main maintenant.
Là, t'es en bonne main avec ton chum, puis là, ça va bien aller pour le reste de ta vie.
Merci beaucoup pour toutes vos histoires. Merci, Hélène.
Merci.
Alors, avis à ceux qui n'y croient pas, il faut juste être ouvert.
Merci. Mais,
j'ai le goût de raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, je restais dans un endroit, j'avais un voisin, puis il savait le travail que je faisais, puis il ne croyait pas du tout à ce que je faisais. Puis quand sa mère est décédée, je suis allée lui offrir mes sympathies au salon funéraire, puis quand je suis arrivée au salon, il me dit, ah Sylvie, moi je ne crois pas à ça, tes affaires. Donc là, je dis, ben là, écoute, je ne suis pas venue pour ça, tu sais, garde.
Oui, t'es mon voisin, je t'offre mes sympathies.
C'est ça. Non, mais il dit, tu comprends pas. Il dit, je crois pas à ça, tes affaires, mais il dit, faut que je te raconte. Et là, dans la semaine du décès de sa mère, il avait vécu 2 phénomènes, mais absolument époustouflants. Puis là, il était complètement renversé de ce qui était en train de lui arriver. Puis il me regarde, mais il savait pas quoi faire avec ces expériences-là. Puis il me dit, non, mais Sylvie, c'est parce que moi, je crois pas à ça. Fait que j'ai dit, ben c'est bien beau, continue de pas y croire.
Ça doit arriver plus souvent qu'on pense.
Mais en même temps, c'est tellement flagrant que souvent autour d'un décès ou d'un accident de voiture, les gens qui n'y croient pas vont vivre des manifestations mais tellement grandioses que ça vient ébranler leurs croyances. C'est fait pour ça. C'est fait pour dire, hey, questionne-toi, il y a peut-être d'autres choses que ce que tu penses qui est là. <C'est>
On va parler avec Lynn maintenant. Bonjour Lynn!
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, Lynn.
Bon, moi, j'ai 2 choses très distinctes.
Okay.
Juste pour appuyer un petit peu ce que le monsieur disait à propos de son rêve d'être enceinte. Bon, ben, moi, j'ai déménagé en Ontario pour 1 an et j'ai fait la connaissance d'une nouvelle amie. Puis quand je suis redéménagée au Québec, j'ai eu un rêve comme de quoi qu'elle était enceinte et que c'était un garçon. Mais son petit garçon, il avait 14 mois puis elle l'allaitait encore.
Okay.
Alors, je l'ai appelée, elle dit, ben voyons donc, on n'est pas prêt pour ça, blablabla. Elle me rappelle 4 jours plus tard, hey, je suis vraiment enceinte. Quand l'enfant est né, c'est un garçon. Au travail, j'avais une collègue de travail qui avait passé 2 ans en clinique de fertilité et ça n'a pas fonctionné, elle avait abandonné. J'ai rêvé qu'elle était enceinte et que c'était une fille. Alors, je lui dis, Patricia, t'es enceinte et c'est une fille. Elle dit, ben oui, non, je viens de passer 2 ans clinique de fertilité, puis toi, ça n'a pas marché, puis toi, tu vas me dire que là, ça a marché. Encore une fois, 4 jours plus tard, elle dit, tu ne devineras pas quoi. J'ai dit, ouais, t'es enceinte.
et
c'était une fille. Collègue de travail. Je rêve la même chose. Je dis, vous êtes enceinte et c'est une fille. Voyons donc, on n'en veut pas de suite. Encore une fois, il y avait 4 jours de congé, il me revient, il dit, tu ne devineras pas quoi. Je dis, bon, oui, ta blonde est enceinte.
C'est donc bien spécial.
Ouais.
Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ma soeur, là, j'ai 56 ans, ma sœur faisait sa première communion. Alors, je me dirige avec mes parents vers l'église. Puis là, je dis à mes parents...
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
Je devais avoir peut-être 13.
OK, merci.
Bon. Là, je dis, ah, débarque-moi ici, je veux plus y aller. Je veux plus. Ben voyons donc, c'est la première communion de ta sœur, tu vas venir certain. Non, je veux rien, sans... je veux pas y aller. Je débarque de la voiture. Là, j'arrête, je marche, je m'en vais prendre l'autobus parce que je m'en allais en ville rejoindre mes amis. Mmh. Eux autres ne savaient pas que je m'en venais, là, mais j'avais décidé ça.
Okay.
Alors, j'attendais l'autobus, je regardais dans le ciel, puis là, je voyais un avion, un Cessna. Puis là, il faisait des acrobaties, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il se met à descendre, descendre. J'ai dit à la personne à côté de moi qui attendait aussi l'autobus, il me semble qu'il est bas. Bang!
Il s'est écrasé.
Il s'est écrasé. Moi, tout de suite, j'ai réagi, j'ai couru vers l'avion. En passant, ça s'est passé peut-être en 73, 74, okay. quelque chose comme ça. Et c'est arrivé à Sillery, sur la rue Shepherd.
Okay.
Là, je me suis dirigée vers l'avion à toute vitesse, niaiseuse, tu sais. Je pensais pouvoir aider la personne à sortir de l'avion. Alors, je poussais sur l'aile. Puis, ça bougeait pas bien, bien, là. Mais là, du coin de l'œil, j'ai vu que le bruit... avait alerté beaucoup de monde, puis j'ai vu beaucoup, beaucoup d'hommes arriver en courant. Alors moi, je me suis reculée pas mal loin pour laisser les hommes essayer de dégager la personne. Alors, il y avait plein de monde autour de l'avion et ils poussaient pour l'aile, pour casser l'aile qui était déjà à moitié cassée, pour libérer le pilote.
Oui.
Moi, j'ai eu une vision. J'ai vu de la gasoline descendre le long de l'aile, puis au milieu de l'aile, tomber goutte à goutte sur l'asphalte et faire une petite flaque bleue qui s'enflamme.
Ça, vous l'avez vu avant que ça arrive, là?
Je l'ai vu avant que ça arrive.
OK.
J'ai fait ni une ni deux, j'ai hurlé. J'ai dit, tassez-vous, ça va exploser! Tout le monde s'est tassé. Une fraction de seconde, il n'y avait plus personne. Ben, ça a fait une grosse boule de feu. À force de frotter l'aile sur la sac, ça l'a fait des étincelles.
OK.
Puis la flaque de gasoline que j'ai vue avant s'est enflammée, puis ça a fait une grosse boule de feu. Donc, il y a peut-être une quinzaine de personnes là, qui auraient pu être brûlées.
Hey, yoy.
Wow.
Mais il y a une chose que j'ai vue aussi, puis que j'aimerais tellement ça que... la personne se manifeste parce que, tu sais, je me dis, je dois être folle. Pour moi, j'ai rêvé ça, là. Il y avait deux jeunes filles qui faisaient du bicycle 10 vitesses. Puis quand l'avion a tombé, elle a piqué du nez, elle a frappé le nez en premier. Elle a rebondi, puis elle s'est couchée. Mais il y avait deux petites filles en bicyclette, puis l'aile de l'avion a écrasé le banc de la deuxième petite fille qui était en bicycle. Puis elle a pédalé debout.
OK, OK, OK.
Tu sais, quand t'es...
Oui. Fait qu'elle aurait été comme épargnée, là.
Oui. Puis là, l'aile, elle a écrasé la bicyclette, puis elle a resté là. Puis son amie est venue la chercher, la prendre par ses vêtements, puis elle l'a tirée. J'imagine qu'elle était en état de choc.
Mais Lynn, ça se peut-tu qu'il y avait le jeune pilote, lui, a trouvé la mort dans l'écrasement? Ça se peut-tu?
Oui, il est décédé. Puis
j'ai trouvé la nouvelle. C'est arrivé le 9 mai 1976.
16?
Oui. Parce qu'on dit que c'est un petit avion type Cessna qui s'est écrasé sur la rue Shepherd et Chanoine Morel à Sillery.
Bon, mais c'est ça. Et le chauffeur, le pilote, j'ai su par la suite que je le connaissais. C'était Glenn Neal et c'était le cousin que j'avais déjà rencontré d'une fille avec qui j'allais à l'école. J'étais en 7e année dans ce temps-là.
Non, mais votre histoire est spectaculaire, honnêtement. Là, vous avez, de par votre vision, intuition, vous avez sauvé la vie de plusieurs personnes.
Oui. Ouais. C'est, des fois, je compte ça, puis c'est comme si j'étais là.
Oui.
C'est incroyable, vraiment.
Oui.
Là,
Mais les deux petites filles à bicyclette, là, est-ce que j'aimerais ça?
Être capable de les retracer.
Parce que j'ai jamais entendu cette histoire-là par la suite, là.
Mais Lynn, on va faire de quoi? Restez en ligne, on va prendre... De toute façon, on les a peut-être vos coordonnées déjà, puisque vous êtes en lien pour gagner le livre de Sylvie Ouellet.
Ah non, on a juste mon nom, en fait.
OK, bon, fait qu'on va prendre votre numéro de téléphone, restez en ligne. Okay. Puis, si jamais... On le sait pas, là. Des fois, on est dans une émission ésotérique. On le sait pas. Tout peut se passer. Alors, admettons que la petite fille qui est à bicyclette écoute, puis qu'elle veut vous parler, ben, on vous mettra en lien.
Ouais.
OK.
OK.
Merci beaucoup,
Merci. Merci. Au revoir. Ouais. Ah, c'est extraordinaire.
Ouais. Et c'est tu sais, quand on disait tantôt de faire un espace pour être capable de capter une information, mais tu sais, quand on... Lynn avait la, je vais dire, la chance, c'est pas une chance, mais d'avoir 13 ans, puis à ce moment-là, t'es encore dans une certaine naïveté, tu te poses pas de questions quand tu reçois ça, tu... Mais tu sais, il y a beaucoup de gens, d'adultes, qui vont recevoir ce type d'information-là, puis qui vont dire, ah oh, ben non, c'est mon imagination, ouais, je vais laisser tomber, puis je le ferai pas, puis finalement, ça se réalise, puis tu dis, hey, j'aurais donc dû le faire, tu sais, j'aurais donc dû hurler, ou j'aurais donc dû réagir. Mais tu vois, l'enfant, lui, il se pose pas de question, il fait. Il reçoit l'information puis il fait.
C'est extraordinaire. On va dans la pause, Sylvie. Oui. Au retour, on va parler avec Maurice, Annie, Estelle, 670-9330, si vous avez vous aussi été témoin d'intervention divine. Je l'appelle comme ça, mais appelez-les comme vous voudrez, là. Donc, on en parle avec mon invitée Sylvie Ouellette.